comme une joie ou comme un risque? Pourquoi un risque? Parce que comme le Seigneur sait toutes choses de nous, à quelque part, ben, on risque qu'il nous interpelle sur quelque chose. Non? Mais je vais vous dire, même si on est loin, le Seigneur viendra nous chercher. Et il nous interpellera toujours sur quelque chose. Et s'il le fait, c'est parce que nous en avons besoin. Amen. J'aimerais ce soir vous partager une réflexion sur une des manières que l'ennemi a de détruire. La manière qu'il utilise pour faire souffrir, pour anéantir, pour réduire à zéro, pour piétiner. Alors on pourrait se dire, quel est ce moyen qui agit comme un char d'assaut? La séduction. Alors je vous invite à faire une lecture et nous verrons bien que la séduction est une vieille ruse de l'ennemi. Genèse chapitre 3. Dès le départ. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, il dit le texte, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. » Jusque-là, la lecture de ce premier texte qui nous introduit sur ce sujet qui est la séduction. La séduction, la source de la séduction est le désir. Désir de plaire, d'être regardé, la volonté d'attirer à soi, et tout cela pour un but bien précis, c'est d'attirer d'une manière qui n'est pas toujours conforme. Et Satan est très rusé dans ce sens-là et se sert de ce moyen de la séduction. Si vous avez bien fait attention au texte que nous avons lu, il ne s'est pas présenté comme un monstre. Il s'est présenté comme quelque chose qui était là de passage. Comme un animal quelconque qui était à sa place. Et là, il entame une discussion en mettant un doute et en proposant quelque chose qu'en réalité est loin de la vérité. Séduire. La séduction dans la Bible est le fruit de la tentation. Et elle est toujours, pour son auteur, il est toujours le même, le mal. Et c'est fait par quelqu'un qui nous veut du mal. Le but, c'est de nous amener en réalité à nous détourner de l'obéissance qui est due à Dieu. Adam et Ève, malheureusement, vont succomber à la tentation. Quelle était pour eux la tentation? Comment pouvoir être tenté lorsqu'on a tout? Si vous regardez bien le texte, dit la parole de Dieu, ils étaient dans le jardin, ils avaient à leur disposition tous les fruits du jardin. sauf un arbre. Et cet arbre était un danger pour eux. Et Dieu les avait avertis, Dieu les avait informés, Dieu les avait prémunis en disant « N'y touchez pas, ne le mangez pas. Mais du reste, vous pouvez tout prendre. » C'est dur la tentation, n'est-ce pas? Et peut-être que jusque-là, Adam et Ève, ils sont passés à côté de cet arbre, ils l'ont regardé, mais ils ont fait chemin en se disant « Ah, Dieu nous a dit de ne pas toucher. » Mais vous savez, avec le temps, quand on passe à côté de quelque chose qui nous séduit et qu'on voit que il n'y a pas à avoir peur, on joue. On s'y approche un peu plus. Ce n'est pas si grave. Ah, mais je n'ai pas touché. Hein. Et à fur et à mesure, on s'approche un peu plus. Et on prend de plus en plus de risques. Et certainement, pour que cette discussion s'entame, c'est que Adam et Ève, ils étaient déjà à côté de l'arbre. Malgré tout. Et c'est là que Satan les attend. C'est à côté de quelque chose dont ils n'avaient pas le droit parce qu'on n'était pas bon pour eux. Et ils auraient pu s'en arrêter là, mais le problème, c'est que Satan avait trouvé la manière de les séduire. Dans l'Ancien Testament, le mot séduction s'applique surtout à l'incitation à l'idolâtrie. Si vous faites bien attention dans les différents textes, mais j'en prends un, en Jérémie chapitre 50, verset 6, il est question des faux prophètes et des gouvernements infidèles qui sont des mauvais bergers, qui conduisent le peuple sur un chemin loin de Dieu. Et si on continue à regarder dans la parole de Dieu, ce n'est pas la seule source de séduction, ce n'est pas le seul but. Il y a aussi l'argent, non ? La convoitise des yeux et de la chair. L'orgueil de la vie, dit la parole de Dieu, qui exercent aussi leur pouvoir de séduction sur nous. 1 Jean chapitre 1, verset 8, il nous dit ceci, « Nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons, pardon, que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Il y a la séduction qui vient de l'extérieur, mais il y a une séduction qui parfois habite dans notre cœur, qui est liée à quoi ? Si ce n'est notre orgueil. Et parfois, on joue avec notre orgueil. On considère que l'orgueil n'est pas toujours mauvais. Mais l'orgueil, en réalité, c'est le début de la chute. Hein ? C'est le début de la fin, dira quelqu'un. Dans la parole de Dieu, nous voyons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 22, il est écrit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Comme quoi Satan est toujours à l'œuvre. Il essaie toujours, avec les moyens qui sont les siens, toujours d'amener les hommes à s'éloigner finalement de Dieu. Vous est-il arrivé un jour dans votre vie de faire face à la séduction. Tout ce que nous voyons même à la télévision a pour but de nous séduire, nous amener à l'acheter, même si en effet on n'en a pas besoin. Même si en effet après, ce n'est pas vraiment ce qui nous convient. Mais on a succombé à une tentation. Parfois, la tentation est liée au prix. C'est pas cher, j'achète. J'ai connu un homme qui il rentrait toutes les fois qu'il rentrait du marché, il disait à sa femme « j'ai fait une affaire ». Sa femme, elle le savait. Dès qu'il rentrait, « j'ai fait une affaire ». Il avait dépensé des sous sur des trucs, des bêtises pas possibles. Vous savez, dans les marchés, il y a ces gens qui vendent un peu de tout. Alors des fois, c'est des choses qui marchent bien. Hein. Je ne veux pas jeter du discrédit, mais des fois, ça marche bien dans les mains de celui qui sait s'en servir. Mais après, vous rentrez à la maison et ce n'est pas le même résultat. Ce n'est pas la même chose. Et cet homme, un jour, il va dans un marché près de Naples et il veut faire une affaire. Il veut faire une affaire. Et là, quelqu'un s'approche et il dit « Tu veux faire une affaire ?»« Ah ben, je suis là pour ça, moi. » Il dit, j'ai une caméra vidéo qui est tombée du camion. Si ça t'intéresse, je te fais un prix d'ami. Et il lui montre. Il dit, mais j'en ai une seule. Si tu la veux, c'est pour toi, mon ami. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais il est déjà son ami. Il dit, mais regarde-la bien sous la table. Il ne faut pas non plus que tout le monde soit intéressé, je n'en aurai pas d'autre. Tu la veux ? Si tu la veux, je te l'emballe, tu la ramènes. Il lui dit le prix, il paye, monsieur emballe, et il repart. Il dit, mais tu ne l'ouvres pas avant d'être rentré à la maison. Et arrivé à la maison, heureux, il arrive, il regarde sa femme, il dit, j'ai fait une affaire. Ah bon ? Ah, j'ai fait l'affaire du siècle. Et il va déballer son paquet, il ouvre le carton, et finalement, dedans, il y avait une brique. Une vulgaire brique qui faisait le même poids que la caméra. Et sa femme lui a dit, bah, t'as fait une belle affaire. Hein. Il s'est laissé séduire. Et la personne qui a agi ainsi, il savait comment faire, en effet, pour lui faire miroiter quelque chose qu'il lui aurait pas donné. Et je pense que ce jour-là, il y en a plusieurs qui sont rentrés avec des briques à la maison. Dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il utilise un autre mot pour séduire, le mot de séduction, c'est aussi égaré. C'est une autre partie de ce mot, égaré, et dans le Nouveau Testament, on voit qu'il en parle en ce qui concerne de causer des divisions. Il parle des faux docteurs qui cherchent à séduire, à égarer de la bonne parole. Et parfois, on peut même se séduire nous-mêmes, soi-même. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 18 à 20, il dira ceci, « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les raisons des sages. Il sait qu'ils sont vains. Ils se séduisent eux-mêmes par la sagesse de ce monde. Ils croient être sages, de savoir tout. Il arrive parfois des personnes qui vous parlent de l'univers. Alors, je vois et je crois qu'on aime tous voir ces belles photos des étoiles, non ? Et certains vous disent ce qu'il y a après. Alors, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a après ? J'ai dit, toi, tu le sais ? Non, mais après ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Je dis, mais toi, tu le sais ? Ben oui, il y a ceci, il y a ça. Tu l'as vu ? Non, on m'a dit. Qui c'est qui te l'a dit ? Qui est-ce qui est allé ? Il y a plusieurs galaxies. Tu l'as vu, toi ? Tu le sais ? Alors, certainement, il y a des choses. Mais de là à en faire une conviction, pouvons-nous ? Pouvons-nous nous laisser séduire par les raisonnements de ce monde, au point que cet homme y remettait par contre en question l'existence de Dieu. Alors j'ai dit, puisque tu connais ce qu'il y a au-delà de l'univers, maintenant dis-moi qui a créé tout ça. Ah, c'est une explosion. Ok, qui a généré l'explosion ? Ah, moi je vais toujours plus loin. Et au bout, il en a eu marre. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Colossiens, il nous parle des discours séduisants et aussi des faux raisonnements. Le séducteur, par excellence, est le diable et ses aides. Pour parvenir à ses fins, Satan se déguise souvent même en ange de lumière. Pourquoi je vous dis tout cela ? 2 Corinthiens 11, 14, vous avez la référence, c'est la Bible qui le dit. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Parce que parfois, on peut croire ou on peut se laisser avoir par un piège. L'ennemi nous place des pièges. L'ennemi nous place des choses pour nous attirer et il ne nous donne pas ce qu'on n'aurait pas envie de manger. Il ne nous donne pas ce qu'on aurait envie d'avoir. Il ne nous propose pas ce qu'en effet on considère sans aucune valeur. Il essaie de nous donner ce qui attire notre cœur en profondeur. Ce qui vient finalement chercher peut-être une pensée ou un sentiment qui est resté enfoui en profondeur et que nous n'avons pas amené à Dieu. Un sentiment qui peut-être peut même causer de la frustration. Alors, si je reprends le texte que nous avons lu tout à l'heure, je me pose la question, quel était le sujet de frustration de Ève et d'Adam ? Le désir d'être comme Dieu ? Le fait de croire qu'ils auraient été beaucoup plus intelligents après avoir mangé le fruit ? Parce que vous regardez, il y a certaines traductions qui disent parce qu'ils pensaient qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence. La question véritable, c'est de dire, Seigneur, garde-nous de ce qui pourrait pour nous devenir un piège. Je me rappelle d'un moment qu'on était dans une colonie de vacances en Italie et on s'est retrouvé à faire face à une grosse souris, plutôt un rat. Et je me rappelle un jour, j'entends dans la cuisine crier ceux qui étaient à la cuisine. Une souris géante. Alors, je n'avais jamais vu de souris géante. Je me suis dit, ça doit être un rat. Et il passait et il récupérait dès qu'il y avait un petit truc hein, qui traînait par terre. Et certainement, ce n'était pas sa place. Il fallait régler le problème. Donc, on a fait un grand nettoyage. On a fermé tout ce qui pouvait être pour lui un accès. Mais malgré cela, il avait certainement eu le temps de préparer ses différentes entrées. Hein. Et il a fallu trouver la manière de le piéger pour finalement le capturer et le sortir de cet endroit. Mais je peux vous dire, je ne lui ai pas mis des brocolis. Hein. Est-ce que vous savez si les souris aiment les brocolis ? Non. Non ? D'accord. Pas de brocolis. Des champignons peut-être ? Même pas. Du fromage peut-être ? Ah ! Je suis certain que si j'avais essayé de mettre des légumes, ça n'aurait pas marché. Mais du moment qu'on a mis du fromage et du fromage qui sentait bien fort, ben il a pointé le doigt de ses moustaches. Il est arrivé, il a voulu en profiter et il s'est fait capturer. Satan fait la même chose avec nous. Il ne nous propose pas ce qu'on n'aurait pas envie, mais ce qu'on désire profondément, voire même on n'en a jamais parlé parce qu'on en a honte. Et c'est sur ça que Satan il vient agir. Parce qu'au fond, il regarde comme nous on vit. Il regarde ce qui en réalité attire notre attention. Il nous observe. Et c'est là qu'il essaye de gérer les choses d'une manière de nous amener à nous perdre. La fin des temps marque le déploiement extraordinaire de la puissance de séduction que l'ennemi met pour amener les âmes à se perdre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 4 à 8, il est écrit « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. » Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Peut-être que nous sommes à la recherche d'un endroit où pouvoir nous cacher et continuer à exister. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces personnes qui se font construire des bunkers. Sous terre. Dans des grottes. En béton. Comme ils peuvent, en se disant au moins on va s'enfermer. Mais là, la véritable guerre ne sera pas là. La véritable guerre est celle qui se produit dans les cœurs. J'aimerais vous lire ce texte de l'Apocalypse au chapitre 12. Qui nous dit qu'il y aura un moment où Jésus mettra fin à la séduction. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut plus le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le seul qui puisse mettre fin à la séduction, à tout ce que Satan est en train de faire, c'est Jésus lui-même. Nous, on peut essayer peut-être de fermer nos yeux, c'est une bonne chose, si vous ne conduisez pas. On peut aussi essayer de se dire, je vais changer de route. Parce que par là, il y a quelque chose qui attire mes yeux, qui m'amène à ne pas être bien. Mais néanmoins, la meilleure chose, c'est de régler le problème en disant, Seigneur, moi j'ai besoin, tu me libères de cette séduction. De ce sujet qui pourrait m'amener finalement, Seigneur, à quelque chose de terrible. Si vous lisez bien et vous faites bien attention, le fruit de la séduction a amené à la déception et finalement à la mort pour Adam et Ève. J'aimerais nous inviter à ouvrir les yeux, mais pas trop tard. Au verset 7, il nous dit « Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. » Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent bien, mais au lieu de trouver la connaissance de Dieu, ils seront mis face à eux-mêmes. Quelle avait été la proposition de l'ennemi ? Vous serez comme... Et finalement, le résultat était quoi ? Ils découvrent leurs différences et leurs déshonneurs. Et entre eux s'installe la déception, la comparaison, le jugement, la honte, l'accusation. Autant de fruits que l'ennemi aime installer dans notre vie pour nous détruire. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Moi, je voudrais vous dire que je crois que chacun de nous, à un moment ou à un autre dans notre vie, nous avons succombé à une forme ou une autre de séduction. Et peut-être qu'on s'est dit, vu tout le bien que je fais, forcément, moi, j'ai une place dans le ciel. Et là, encore une fois, une séduction qui vient de notre cœur même. Mais il y a une grâce. Au verset 8 à 10 du texte que nous avons lu, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Il nous dit alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Adam et Ève se sentent coupables vis-à-vis de Dieu. Ils se cachent de Dieu. Et donc, à quelque part, ils ont peur. En effet, jusque-là, ils avaient la paix. Ils se promenaient dans ce jardin que Dieu leur avait donné en paix. Ils n'avaient pas peur de quoi que ce soit. Il n'y avait rien de quoi avoir peur. Finalement, Dieu leur avait donné autorité sur tous les animaux. Vous imaginez, le soir, vous avez un petit lion qui vient et se couche à vos pieds comme un petit chaton. Alors certes, ça prend un peu de place, mais ça chauffe les pieds. Et là, pour Adam et Ève, maintenant, il y a la crainte qui s'installe. Et la première crainte est celle du regard de Dieu. Et malgré tout cela, Dieu les cherche parce que Dieu cherche les perdus. Est-ce que Dieu ne savait pas ce qui s'était passé dans le cœur, dans la vie d'Adam et Ève ? Nous, on pense parfois pouvoir cacher à Dieu la réalité. Je vous disais au départ, est-ce que... on prend plaisir à s'asseoir à côté de Dieu en disant « Seigneur, je m'approche de toi. » On peut avoir peur. Hein ? Très jeune, combien de fois j'avais peur. Même de prier. Parce que je savais que je n'étais pas en ordre. Et je me disais « Comment je peux prier maintenant ?» Il sait tout. Il sait tout. Et sans même pas besoin de prier, déjà mes péchés venaient en effet hanter mon cœur. Et je sais que le Seigneur me poussait finalement à les rejeter, à demander pardon, parce que c'est ça que Dieu veut. Et quand Dieu est venu chercher Adam et Ève, il est venu les appeler, il savait où ils en étaient eux. Et la volonté de Dieu, c'est encore aujourd'hui de chercher les perdus. Dieu leur parle. Et Dieu parle encore aujourd'hui. On peut être perdu à cause de nos fautes, mais Dieu encore veut nous parler. Dieu veut encore nous adresser un message et nous interpeller sur notre place à son côté. Et Dieu veut nous faire rendre compte de la situation dans laquelle nous sommes, non pas pour nous dire « tant pis pour toi ». Non, pour nous donner une véritable solution. Dieu veut mettre en lumière le péché. Parce que tant que le péché reste caché, on ne sera jamais libre. Tant que la situation, notre, ce qui nous séduit, ce qui nous attire, ce qui nous amorce, on le garde comme quelque chose que personne ne doit savoir, ça sera toujours l'objet qui nous fera tomber. Et la volonté de Dieu, c'est de le mettre en lumière pour que finalement nous soyons libérés. Que l'ennemi n'ait plus la possibilité à nouveau de venir nous tenter par le même sujet. Dieu veut amener l'homme à la réconciliation. Alors l'homme, il a été tenté de faire ça à sa manière. Il s'est cousu des habits en feuilles. J'imagine le temps qu'ils ont dû passer pour tricoter des feuilles et se faire des habits. Vous avez déjà essayé de faire des habits en feuilles? Alors imaginez, ils ont dû... Comment ils ont fait à imaginer? Ça n'existait pas. Dieu leur avait donné de l'intelligence pour créer des choses. Et cette intelligence avait été, quelque part, dénaturée, détournée. Au lieu de faire des bonnes choses, ils essayaient de cacher leurs péchés. Dieu aimerait que nous puissions utiliser notre intelligence autrement. Non pas pour cacher nos fautes, mais être tellement intelligent au point de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton salut. L'Éternel, dit Genèse chapitre 3, verset 21, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Ce qu'ils avaient fait, c'était quelque chose qui ne pouvait pas durer dans le temps. C'était une solution humaine, mais qui ne pouvait pas résoudre leur problème. Le Seigneur, Dieu est venu, pas seulement pour parler, pas seulement pour finalement les amener à prendre conscience de leurs fautes, mais leur accorder quelque chose qui allait les couvrir et quelque chose qui allait les accompagner au long de leur vie pour leur rappeler le prix de leur péché. Puisque la parole de Dieu dit que Dieu prit un animal et cet animal est mort pour que sa peau puisse servir pour couvrir Adam et Ève. Alors certes, pour nous, ça ne servirait à rien d'aller chercher un animal pour se revêtir. Ça ne résoudrait pas notre problème. Quelle est la solution qui nous est offerte aujourd'hui? C'est Jésus-Christ, qui est le seul vêtement qui peut nous arracher au jugement et à la mort. Jésus est le seul qui puisse nous offrir le chemin qui mène au Père. Lui, le Seigneur, nous appelle sans cesse, mais c'est à nous d'entendre sa voix et de lui donner notre cœur. Alors pour terminer, je voudrais nous dire, ne laissons plus les séductions nous séparer de Dieu, les raisonnements, l'argent, la beauté, les désirs, les fausses religions. Abandonnons toutes les fausses excuses et les séductions qui en réalité nous éloignent de Dieu. En Éphésiens chapitre 1, verset 18, il est écrit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Amen. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? Sommes-nous conscients de ce qui nous éloigne de Dieu? Et si nous en sommes conscients, est-ce que nous avons pris aussi conscience des dégâts que ça peut faire dans notre vie, et pas seulement dans notre vie ici-bas, mais pour l'éternité? La parole de Dieu nous parle de cette possibilité pour nous de fuir toutes ces choses-là pour finalement nous réfugier en Jésus-Christ. Je suis certain qu'on a tous essayé pour différentes choses de régler le problème par nos propres forces. On a dit au Seigneur, je te promets, je ne le ferai plus. J'ose pas compter les fois que j'ai pu faire cela. En disant au Seigneur, tu sais, je ne le ferai plus, promis. Et le jour d'après, rebelote. Pourquoi ? Parce que j'ai compté sur mes propres forces. Certes, je priais, je disais au Seigneur, je ne le ferai plus. Mais en réalité, je n'avais pas compris que c'est si je comptais sur moi-même, je ne pouvais pas m'en sortir. Parce qu'en réalité, le problème était à l'intérieur. Il fallait que le Seigneur vienne enlever ce qui était pourri dans mon cœur. Il fallait que je puisse compter sur sa grâce, sur son secours et non pas sur mes propres forces. Autrement, ça veut dire qu'on serait capable de se sauver soi-même. Alors Jésus n'avait pas besoin de mourir à la croix. Mais faire appel à Jésus ce soir est certainement la seule et la meilleure des solutions qui nous est proposée. Il y a peut-être des choses avec lesquelles on se bat depuis longtemps. On peut en citer l'alcool, la drogue, cigarettes, pornographie. Et on peut rajouter à la liste beaucoup de choses. Certaines choses, on a pu même les appeler des péchés mignons. Qu'est-ce qu'il y a de mignon dans un péché ? Rien du tout. Parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on a succombé à cette tentation, ça a laissé toujours un goût amer. Et si ce soir, on mettait fin à tout ça ? Et si ce soir, on saisissait l'occasion pour dire au Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens me libérer. Seigneur, viens finalement affranchir mon cœur et ma vie de ce sujet pour lequel je suis tellement combattu et pour lequel j'ai tellement de fois déjà perdu. Jésus dira quelque chose dont nous n'avons pas toujours pris l'ampleur. À la croix dira, Père, tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, notre délivrance, elle est là. Mais il faut qu'on s'approprie de cette parole de Christ, il faut qu'on laisse Christ finalement s'approprier de notre cœur pour que cette parole prenne tout son sens pour notre vie. Parce que c'est en Christ que tout est accompli. Le pardon, il est accompli en Jésus-Christ. La délivrance, c'est en Jésus-Christ. Le pardon, c'est en qui ? La guérison ? Amen. Alors on peut demander au Seigneur ce soir, aide-moi Seigneur. J'ai vu déjà des personnes être délivrées de la drogue. Des personnes qui étaient sous des doses énormes et Dieu est intervenu. Des personnes être délivrées de l'alcool et de bien d'autres choses. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont appropriés de cette œuvre de Christ pour eux. Ils ont répondu à l'appel de Jésus. De la même manière que Dieu a appelé Adam et Ève, Jésus nous appelle. Et il nous propose un changement de vie, un changement de direction. Et il nous propose une grâce qui est imméritée. Seigneur, encore ce soir, ta parole, elle nous parle. Et cette parole, Seigneur, elle vient au contact de notre vie, de la réalité. Elle vient au contact, Seigneur, de ceux qui touchent aujourd'hui notre existence. Ta parole, elle n'est pas lointaine, elle n'est pas dépassée. Elle n'est pas une histoire vécue et qui ne peut pas être revécue. Ta parole, elle est pratique. Ta parole, elle est profonde. Ta parole, elle est puissante, Seigneur, encore pour agir dans notre cœur. À l'image d'Adam et Ève, nous aussi, nous avons cueilli des fruits qui n'étaient pas bons pour notre vie. des fruits qui nous ont éloignés de toi, éloignés de la paix, éloignés de la joie, pour finalement nous amener à vivre dans la crainte, dans la peur, dans l'humiliation, à ne plus avoir du respect ni pour nous-mêmes, ni pour ceux qui nous entourent. Car très souvent, on est tombé dans le mensonge. Mais Seigneur, ce soir, ta parole, elle nous rappelle qu'à l'image de ce que Dieu le Père a fait pour Adam et Ève, toi aussi, tu nous appelles. Toi aussi, encore ce soir, tu viens chercher les perdus. Tu viens encore, Seigneur, nous interpeller. Non pas pour nous laisser, Seigneur, avec nos moyens de couvrir nos erreurs et nos fautes, ces moyens qui ne vont pas durer longtemps, ces moyens qui, Seigneur, un tôt ou tard, ils vont nous remettre encore une fois dans de mauvaises postures. Mais Seigneur, tu as offert ta vie pour que finalement nos fautes soient pardonnées. Seigneur, je veux te prier encore pour ceux et celles qui ce soir ont besoin de vivre une délivrance par rapport à un sujet particulier dans leur vie. Sujet qui fait souffrir, sujet qui humilie, sujet qui donne l'occasion encore à l'ennemi d'écraser. Seigneur, nous prions celui qui a toute autorité, toute puissance, celui qui a la croix tout accompli, celui qui a vaincu l'ennemi, celui qui est capable encore ce soir de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir dans la bonne direction, qui peut encore ce soir ouvrir notre cœur pour que finalement nous puissions retrouver la paix, la joie et le véritable amour en notre Dieu et notre Père. Seigneur, merci de toucher le cœur de ceux et celles qui ce soir ont fait appel à toi. Merci Seigneur de te révéler dans la vie de chacun, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de ce qui nous fait honte et accorde-nous, Seigneur, de pouvoir être heureux de t'avoir rencontré et ne plus laisser la honte de nos fautes, Seigneur, continuer à nous faire souffrir, mais connaître la paix qui est en Jésus-Christ. Recevoir le salut qui est dans celui qui a fait pour nous ce que nous, on n'aurait jamais pu faire pour nous-mêmes. À toi soit la gloire et l'honneur, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.